Misofonía. Estáis en Contrabanda FM 91.4 como sábado, que se debe ser como cada sábado a las 11 de la noche, y en 91.4 FM o contrabanda.org. Estáis con Anaís para una hora de delirios exofónicos y podéis llamar con mucho gusto a haceros conocer. A mujeres especialmente, porque es mi blanco preferido, que me gusta que se desenchufen los complejos y se apaguen las tonterías y se hable de verdad sobre el sexo de las mujeres, el sexo y las mujeres y el sexo por las mujeres. Entonces el número de la felicidad es el 93-317-7366. Y bueno, el resto del tiempo también podéis, tenéis la opción de escribirme a la sexofonia@yahoo.es, que queda siempre prendido y muy prendido a escuchar vuestras, bueno, fantasías, amores, placeres. Estamos para una hora que quiero dedicar al placer intenso, porque pasé un día bastante chungo y estoy harto de conversaciones estériles. Y quisiera avanzar hacia una cosa que sea un poco más de delirio, de cosas más cercanas a todo el mundo, cercanas y verdaderas y sinceras y que no sé, que hacen un poco avanzar el Schmilblick, como decimos en francés. Y entonces os propongo ir al grano con Georges Bataille, Henri Miller, Henry Miller y Tao Te Ching, Lao Tse. ¿Por qué empezamos? Creo que empezamos con las mujeres. Una gran mujer portuguesa, Amália Rodrigues. Mi preferida del álbum llamado Segredo. Espero que os guste. A todas las oyentes que les gusta. ¡El amor gritado!
Fora de cera se quebrava e desfazia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia. Quem pode que se ou que não, se continua a viver. Todo o amor que nos prenderá, se quebrará e desfizerá, em pavor se convertia.
La estrecha de la señora Cavendish no da crédito a sus oídos. Vuelve a echarse en brazos de Sid para ver si está bromeando y se encuentra con que éste la aprieta con fuerza y no piensa soltarla. Ella pide que le deje. Sid le estruja las tetas y le dice que se porte bien. Entonces, al comprender que hablamos en serio, empieza a pedir que la soltemos al instante y acaba alegando que no tenía intención de herir a nadie. Estaba bromeando inocentemente, nada más. Entonces, ¿qué tal si echamos un polvete? Le pregunto. Un polvete inocente y en broma. ¿Que no le hablemos así? Si no la soltamos al instante, gritará. Como hagamos un movimiento en falso, avisará a la policía para que investigue. Ah, se va a encargar de que la autoridad competente se entere de este atropello. Mira, Sid, dice Arthur, no puedo soportar esta chachara. Me revuelve el estómago. De todos modos, podría gritar y si me parte el corazón de oír gritar a una mujer, con que vamos a ponerla en tono para que no pueda armar escándalo. Sid le da otra oportunidad de ceder pacíficamente. Ella grita que de ninguna manera. ¿Qué clase de chica creemos que es para esperar que permita a tres sombras ultrajarla? Arthur le mete un pañuelo en la boca y se lo ata en la nuca. Di algo, le dice, y la señorita Cavendish dice gag, con acento británico, me parece. Perfecto, dice él, admirado. Ahora te vas a enterar de lo que es follar, cacho calientapollas. Te vamos a violar en tu puñetera cama, ya que no admites a nadie en ella de otro modo. Ella da patadas y araña, pero nosotros tres somos sencillamente más que ella. La llevamos a la alcoba y la tiramos a la cama. Oye, esto se parece ser la presentación de una violación y esto me duele mucho, entonces vamos a ir un poco antes porque yo había empezado como a mi costumbre a cualquier página, que era la página 45 de El Opus Pistorum de Henry Miller. Y no me gusta mucho entrar en el medio de una violación sin enterarme de por qué se viola a una mujer. La idea fabulosa se le ha ocurrido a Arthur. Arthur, porque yo creo que más bien es un nombre francés en este caso, puede ser Arthur, como Arthur Miller, lo dudo, en los años 20, yo creo que, bueno, no tengo idea, pero yo diría Arthur. Y yo, Henry Miller, estamos en un bar, los tres un poco mamados, y Sid ha contado a Arthur la triste historia de la señorita Cavendish, a la que yo añado alguna cosita de mi cosecha cuando parece oportuno. Naturalmente, Arthur está convencido de que no hemos sabido dar marcha a esa puta. Con él habría sido muy distinto. De hecho, como le hemos dado vela en ese entierro, nos va a ayudar a cambiar el caso para todos nosotros. La idea fabulosa es que vamos a ir a verla, a la señorita Cavendish, y nos la vamos a follar. Estamos en página 43, ¿eh? Dos páginas antes del primer pasaje que os pasé, que os leí. No sé todavía por qué la tratan de puta la pobre Cavendish, pero bueno, quizás voy a la página 40 para ver por qué. A ver, página 39, no se habla de ella. No, porque lo interesante en la vida es entender. No se puede excitar uno a un relato ni de violación ni de nada si no se entiende por qué se la viola. La señorita Cavendish, página 34. Es una pelma de los cojones. O por decirlo con mayor propiedad, una pelma que no quiere saber nada de los cojones. Hablando en plata, es una calienta pollas. Toda promesas y a la hora de la verdad, nada. En los 3 días que lleva viviendo aquí, ha inventado 300 excusas para 300 visitas. Al menos eso parece. Si no es el grifo que gotea, es el reloj que no anda. En lugar de bajar a ver a la concierge, viene a llamar a mi puerta. Ah, será su vecina. El grifo solo necesita que lo cierren del todo y lo único que tiene el reloj es que no le han dado cuerda, pero es igual. Tiene una excusa para entrar y fastidiar un rato. Ya no lleva las gafas y es bastante guapa. También parece haber guardado la ropa de tweed y las medias de algodón. Aparece resplandeciente con organdí y seda. Y tiene unos muslos. Los muslos los descubrí la primera vez que vino a verme. Supongo que será fácil enseñar tanto así y no más, volver majareta a un hombre haciéndole ver casi, pero no del todo, esos centímetros que faltan. Lo difícil es impedir que se dé cuenta de que eres perfectamente consciente de lo que enseñas y en eso la señorita Cavendish no es tan hábil como podría. Al principio pensé que se moría por un polvo, pero cuando me puse a tirarle los tejos, me cortó el rollo un seco. No tiene la menor intención de bajarse las bragas para un hombre, al menos para mí no, pero provoca y provoca hasta que me dan ganas de echarla de una patada en el culo. No solo practica ese jueguecito conmigo, Sid estaba convencido de que iba a tirársela, me lo contó con detalle e incluso se ofreció generoso a recomendarme ante ella. Ahora viene con la noticia de que el irrigador que tiene colgado en el baño debe de usarlo para limpiarse los oídos. No hay nada que hacer. Mujeres así pueden destrozarte los nervios si te las tomas en serio. Después de 2 horas de arrastrar un cipote yeso en los calzoncillos, eres capaz de volver a la masturbación. Y a la señorita Cavendish no puedes por menos de tomártela en serio. Anda por medio de demasiado tiempo como para quitártela de la cabeza. Tengo las uñas comidas hasta la carne. La Virgen no se deja ni tocar. No habla de otra cosa que del asunto. Todo el tiempo que anda por aquí, pero nunca directamente, por supuesto. Mi abuela la habría llamado coqueta. Conocí historias verdes de chicos y chicas, pero, ay, si intentas tocar el culo, puede que traiga un nuevo par de bragas para que las admires y que se alce las faldas incluso para que eches un vistazo y compares con las que lleva puestas. Pero que no se te ocurra acercarte demasiado al par que lleva puesto. Ernest piensa que no entiendo. Ah, no. Después, cuando estás dispuesto a abandonar asqueado, se vuelve otra persona. Han cambiado las reglas y viene a sentársete en las rodillas. Entonces, ¿está permitido que estrujes un poco el trasero o que juguetees con sus jareteras? Pero antes de que consigas otra cosa que una polla más tiesa que la leche, ha vuelto a marcharse y la próxima vez que intentes tocarla, te lanza una mirada de las que quieren decir, ¿quién cojones te crees que soy? Anoche Sid y yo intentamos emborracharla. Pero qué leche, no dio al menor resultado. Hombre, se excitó un poco, se reía con facilidad e incluso nos dejó echar unos vistazos a su coño. Mediante esos maravillosos accidentes que se las arregla para provocar. Pero nada más. Cuando nos había provocado hasta el punto en que la tensión estaba volviéndose irresistible, se marchó a su casa. Yo me resignaría y la olvidaría, pero la muy puta no me deja, sencillamente. Esta mañana ha venido a mi habitación envuelta en una simple toalla de baño. Una toalla grande, pero solo eso, para preguntarme cómo se cierra la puerta del baño. Ernest está en la cama, oye, se habrá inventado este personaje de señorita Cavendish, ¿no? Porque difícil que existiera este tipo de mujer. Ernest está en la cama cuando paso a verlo. Ha estado esperando que yo diera señales de vida, que según dice, y se alegra al enterarse de que Ana ha vuelto a aparecer intacta de cuerpo y alma. pero le interesa más mi historia sobre la chinita a la que me envió. No le cuento que me costó el salario de una semana. No importa que olvidara averiguar lo de la cocaína. Ya no sale con ese gachi, me dice. En realidad, no lo quería a él. Andaba tras una gachi española con la que lo había visto varias veces y Ernest está indignado. Está indignando. Las lesbianas se están apoderando del mundo en nuestras propias narices, insiste. En nuestras propias narices. Un momento después ha compuesto un epigrama. Nos están quitando el pan, o mejor, tías más buenas que el pan, de la boca misma. Ernest está inquieto y pienso que debe de estar esperando a alguna ja. Está acostado con las rodillas levantadas y las mantas abultadas en torno a ellas y, al parecer, piensa quedarse todo el día en la cama. Le pregunto si no se encuentra bien. Oh, sí, perfectamente, solo un poco cansado y simula un bostezo. Bueno, le digo, me voy a ir a dar una vuelta y justo entonces algo se mueve debajo de las mantas en las rodillas de Ernest. Pocas veces he visto a alguien tan avergonzado como a Ernest. Cuando veo lo que estaba ocultando, no puedo reprimir la risa. ¿De qué sexo es?, le pregunto. Ernest levanta las mantas y una chica de 10 u 11 años sale a gatas de debajo de sus rodillas. 2 minutos más y no lo habrías adivinado, dice. Pero ahora mira, Alf, no digas de eso, ¿eh? La Virgen, ya sabes lo que son estas cosas. La chica se echa atrás su negro y liso pelo y se limpia la frente como una sábana. Se queja de que hacía demasiado calor ahí debajo. Por poco se muere. Se sienta en el borde de la cama y me mira. ¿Cuánto tiempo llevas con esto?, le pregunto. ¿Qué? ¿Le das caramelos de menta para que suba aquí? Es la hija de los que regentan el bar contigo, me cuenta Ernest. Y dice a la defensiva, no solo la visita a él, todo el vecindario la conoce. No es como si me la hubiera ligado por ahí, dice. ¡Qué leche! No puede enseñarle una puñetera cosa, ya conoce todo. Pregúntale algo y verás que no te engaño. Solo que ha aprendido a follar un poco antes que la mayoría de las chicas. La chica abre las piernas y me enseña su pelado chichi. Se lo abro incluso para asegurarse de que le eche un buen vistazo. «Puedes follarme si quieres», dice. «Pero primero tiene que follarme el del señor Ernest». «¿La folla el señor Ernest con frecuencia?», le pregunto. «No, esta es la tercera o cuarta vez que ha venido aquí». Estaba a punto de follársela cuando he llegado yo. Sigue, digo a Ernest. No quiero estropearte la fiesta. La chica se ha puesto a tocarse con una mano y con la otra está meneando la polla de Ernest. Ernest piensa que no entiendo. No está haciendo nada que no pudiera hacer cualquier otro, etcétera, etcétera. Pero le aseguro que entiendo. A punto estuve en cierta ocasión de hacer lo mismo yo también. De hecho, propiamente podría decir con que Ernest se siente mejor. Por Dios, Alf, dice, ¿deberías probarla alguna vez? Nunca creí que llegaría un día en que lo reconociera, pero la verdad es que te pone brutísimo. Vuelve a echarse las mantas encima con los pies y se sienta. Da un pellizco a la chica y le hace estirar los hombros. Mírala. ¿No es una belleza de niña? Va a ser una gachi preciosa cuando sea mejor. Mayor, no sé. Y tiene una desvergüenza de la hostia. Tendrías que oír lo que echa por la boca cuando se cabrea. ¡Uy, la leche! ¿Las historias que me cuenta? No creo ni la mitad, pero lo que me creo es bastante cochino. ¿Sabías que huelen hasta cuando son tan jóvenes como esta? Parece sugestión, pero está ahí. Desde luego, lo único que tienes que hacer es acercarlos bastante la nariz. La chica deja de tocarse y le agarra el cipote con las dos manos. Sabe bastante de pichas para entender lo que las pone tiesas. Se agacha y deja de... O sea, hay veces donde Henry Miller es muy naif. O sea, sabe bastante. ¿Qué hay que saber? Una polla se pone en 12 minutos. Bueno, ya no me gustó este pasaje. Paso por alguien un poco más inteligente de la misma época, Georges Bataille. Lo siento, Henry, pero volveremos cuando te hayas O sea, que nos cuentes algo nuevo, porque esto de follar a niñas y que las niñas saben cómo follar y que increíble, ¿no? Oye, sabe poner a un tipo porque le toca con dos manos. Hombre, tan difícil es, ¿no? Poner a un tío. Bueno, caí mal. Hay días sin y días con. Hoy es un día sin con. O sea, sin Henry Miller. Vamos por Georges Bataille. Volvemos al poème et nouvelles érotiques en français. Para volver a mi lengua materna y darme más gusto, porque la verdad me ha cabreado este puto Henry Miller. A ver, empezamos con poemas y luego una novelita, ¿vale? Mademoiselle mon cœur. Mademoiselle mon cœur, mise nue dans la dentelle, à la bouche parfumée, le pipi coule de ses jambes, l'odeur maquillée de la fente est laissée au vent du ciel. Un nuage, dans la tête, se réfléchit à l'envers. Une merveilleuse étoile tombe, cœur criant comme la bouche. Le cœur manque, un lys est brûlant, le soleil ouvre la gorge. La foudre. Le canon tonne dans le corps et la foudre dans l'œil de bronze à la nudité de l'ordure. Au crâne. Ô crâne, anus de la nuit vide, ce qui meurt, le ciel, le souffle, le vent, apporte l'absence à l'obscurité. Déserte, un ciel fausse lettre, voix vide, langue pesante de cercueil, l'être heurte l'être, la tête dérobe l'être, la maladie de l'être vomit un soleil noir de crachat. La chemise soulevée à travers l'eau fleurie de poils, quand le bonheur sale lèche la laitue, le cœur malade, par la pluie à la lumière vacillante de la bave, elle rit aux anges. Je n'ai rien à faire en ce monde, sinon de brûler. Je t'aime à en mourir. Ton absence de repos, un vent fou siffle dans ta tête. Tu es malade d'avoir ri. Tu me fuis pour un vide amer qui te déchire le cœur. Déchire-moi si tu veux. Mes yeux te trouvent dans la nuit, brûlés de fièvre. J'ai froid au cœur, je tremble. Du fond de la douleur, je t'appelle avec un cri inhumain, comme si j'accouchais. Tu m'étrangles comme la mort, je sais cela misérablement. Je ne te trouve qu'agonisant. Tu es belle comme la mort. Tous les mots m'étranglent. Tu es l'horreur de la nuit. Je t'aime comme on râle. Tu es faible comme la mort. Je t'aime comme on délire. Tu sais que ma tête meurt. Tu es l'immensité, la peur. Tu es belle comme on tue. Le cœur démesuré j'étouffe. Ton ventre est nu comme la nuit. J'ouvre les jambes à la langue de bœuf de la fourrure. Une longue pine crachait dans l'église de mon cœur. Mon petit trou est l'autel dont la nappe sont les chiottes du soleil mort illuminait l'ombre velue d'une traînée de foutre amère, le chapeau de ta langue aux yeux de sang. Gonflée comme une pine, ma langue dans ta gorge d'amour rose, ma vulve est ma boucherie, le sang rouge lavé de foutre, le foutre nage dans le sang. Dans mes bains mauves, le parfum de pomme, le panthéon de la bite majestueuse, un cul de chienne ouvert à la sainteté de la rue. L'amour chevelu de ma jambe, un panthéon de foutre, je dors, la bouche ouverte dans l'attente d'une pine qui m'étrangle d'un jet fade, d'un jet gluant. L'extase qui m'encule est le marbre de la verge maculée de sang. Pour me livrer au vite, j'ai mis ma robe à fendre l'âme. Bastante bueno. Bueno, para ayudar un poco. Foutre es el esperma, no sé qué había de repetido. La pina es la polla. Lindísimo, me encanta. Nada mejor después que una cancioncita más de la gran Amalia. Sí, la número 7.
Una flor de verde pino que responda a quem como eu dorme singela. Meu amigo anda no mar, eu já fui onda marinheira. E aberta pesa-me todo este corpo que é o meu, represado como água sem destino. Anda no mar o meu amigo, ó verde pino, ó verde mastro, da terra até ao céu, sou baraia eu do meu amigo, e não estivera só comigo. E onda redonda eu era para ele, quando o fagueiro desejo nos levava ao lume d'água e à flor da pele. Pelo tempo que mais tempo desdobrava, e como da perdida dos lia, arranquei para aquela tempestade, onde se diz de uma vez toda a verdade, que é um tempo verdade e fantasia, sou eu do meu amigo, e não estivera só comigo. Que sou agora, ó verde pino, ó verde mastro, aqui plantado e sem poderes largar. Na mágoa destes olhos sou um rastro d'água verdadeira de outro mar. Sou baraia eu, enfim, do meu amigo, e não estivera só comigo.
Estoy flipando leyendo el epílogo de lo de Opus Epistolorum, explicando por qué escribió este libro Henry Miller, y es fascinante, os lo leo. Más abajo ofrecemos la declaración jurada de Milton Lubovitsky, presentada en la Embajada de Estados Unidos en París el 10 de marzo de 1983, sobre las circunstancias en que encargó Henry Miller la redacción de Opus Epistolorum. En el verano de 1940, era yo uno de los socios de la librería de Larry Edmunds, situada en 1603 North Chuenga Boulevard, Hollywood, California. En septiembre del mismo año, Henry Miller entró en la librería, que estaba cerrada, un domingo por la tarde. Llamó a la puerta, se presentó y lo hice pasar. Así comenzó una amistad que duró 35 años, más o menos. En aquella época, Henry tenía poco o ningún dinero y conocía a poca gente en California. Yo le ayudé prestándole dinero de vez en cuando, presentándole a gente y, en cierta ocasión, encontrándole un lugar para vivir. El 1 de septiembre de 1941, Larry Edmunds murió y yo pasé a ser el propietario único de la librería. En aquel tiempo esta librería daba poco dinero y yo completaba mis ingresos vendiendo pornografía, siempre que podía conseguirla. Mis clientes eran principalmente escritores y directores, como Joseph Mankiewicz. ¡Wow! El gran Mankiewicz, director de cine, A Letter to Three Wives, Eve, All About Eve, tantas pelis con Ava Gardner, con todas. Julian Johnson, entonces los clientes de pornografía, Julian Johnson, Daniele Amfiteatrof, Billy Wilder, Frederick Hollander, Henry Blake y otros. Como necesitaba dinero, Henry se ofreció a escribir para mí textos que podría vender. Me ofrecía pagarle $1 por página a cambio de todos los derechos sobre los textos que escribiera para mí. Poco después empezó a traer varias páginas cada vez y le pagué al contado a la tarifa acordada. Al cabo de unos meses, las páginas acumuladas habían formado un libro, que él tituló Opus Pistorum. Cuando me entregó las últimas páginas, hacia mediados de 1942, recuerdo que me dijo: «Aquí está el final del libro. Espero que te dé para varios meses de alquiler». Yo volví a pasar a máquina todo el manuscrito e hice 4 copias. Después mandé encuadernar los 5 ejemplares y posteriormente vendí ejemplares a Julian Johnson, Daniele Amfiteatrof y Frederick Hollander. Unos años después regalé un ejemplar a mi amigo Robert Light y conservé el original en mi poder. Bueno, pues no sé, es igual. Follar con una chica de 10 o 11 años y violar a una tía que es Sandy Touche es empezar raro una novela pornográfica, pues. Igual, era de 40. Este libro de poemas eróticos de Bataille son de 1928 en gran mayoría, ¿no? De lo que veo. Parece que sí. Al menos las novelas, bueno, sí, de 28. Bueno, es que son publicados póstumos. Entonces, claro, difícil saber exactamente cuándo fueron escritos. Sí, más o menos, 28. Os leo ahora una novela suya, Éponine. Ce qui m'attire dans un prêtre est bien sûr ce qui lui manque. L'univers, en un sens, est un trucage. La porte de derrière d'une maison qui s'ouvre sur le vide. En cela, semblable à l'univers, le prêtre, à l'en croire, serait lui-même un piège. L'homme ordinaire ne cache rien. On en fait le tour aisément, sa maison, par derrière, est mal tenue et même sans mauvais, nul rideau noir ni étendu, que garde un silence gêné. L'irritant dans un prêtre est qu'en vérité, il n'a pas non plus de rideau suspect, mais cela lui manque. La supercherie, au contraire, est en lui de laisser croire qu'il ouvre sur un vide, mais rapidement de nous contrer, de blaguer avec nous. Parfois, il gravit l'autel, la gorge serrée, et d'entendre sa voix trembler, nous prenons d'espérer qu'il accède à l'au-delà, qu'il va soudainement et sans vie tomber à nos pieds. Mais alors, il faudrait l'aider, armé de cette violence innommée qu'il appelle, ou fin d'appeler, le tuer. L'Église, alors, abandonnerait le faux-semblant qu'elle ordonne et ce qui lui manque. L'infini s'ouvrirait. Entre tous, cette malédiction de l'urbanité égarerait l'abbé C. Rarement, jeune prêtre s'acharna davantage à décevoir un désir de silence. Je parlais à l'abbé C de cette impuissance. Il eut avec un sourire suave une plaisante réponse. « Tu n'y es pas, mais non, pas du tout. Nous ne songeons qu'à ça, me dit-il, c'est que nous trompons notre monde. Au dehors, l'allant, la bonne humeur, même un tantinet mauvais genre, mais l'angoisse au fond du cœur. » Ses yeux brillèrent alors de malice. « L'amour de Dieu, ajouta-t-il, est le plus tricheur de tous. On aurait dû lui réserver le slogan vulgaire, « qui passerait ainsi, comme insensiblement, du trait d'esprit au silence le plus chargé. Alors, il laissa ces mots glisser des lèvres, il fumait la pipe, le sourire fuyant. « Say it with flowers !» Je dus, pour ne pas rire, ramasser un journal. Je ne sais pas, même aujourd'hui, ce qu'il prétendait. Un souci de bonne volonté, d'ouverture, l'emportait en lui sur la prudence. Son catholicisme brûlant, son intelligence, son aimable témérité lui donnaient le pouvoir de tout oser. Le sens d'un mystère qu'il aurait dû réserver lui manquait si bien qu'un jour où il riait avec une secrétaire, elle demandait le genre de culotte qu'elle portait les prêtres, retroussant gaiement sa robe, il exhiba des shorts et des chaussettes fines qu'un élastique fixait au jarret. Il n'y avait là nul libertinage, tout au plus répondait-il à une provocante obsession qui lui faisait dire en un bavardage futile que lui, s'il faisait l'amour, se tuerait. En vérité, cet homme voyant, vide et agréable, tenait du sacerdoce un pouvoir de tromper, non les autres, mais lui-même. Un tel enchantement d'être au monde, une débordante activité, sifflant dans les faubourgs un triomphe de la vertu, ne sont possibles qu'à la confusion. Des femmes excellent dans ces débordements de naïveté, mais s'effacent, tandis qu'un homme, un prêtre, donne à cette comédie de bonté divine une figure de m'as-tu vu. Totalmente anti-ecclesiasticus. Este inicio de novela. Ce qui m'attire en ces émissaires de l'infini est qu'ils ont si bien mis leur maître au pas qu'ils n'en ont plus rien à espérer ni à craindre. S'ils parlent, ils entendent sa voix, à laquelle leur langue a donné la suavité. Ils sont sourds, suavement. J'avais ce dimanche-là passé l'après-midi avec une fille incongrue. Nous avions bu sans mesure. Je pris rendez-vous avec mon ami sur la tour de l'église. Je passais tout d'abord au presbytère, demander à C de m'accompagner. Je le pris par le bras, et m'autorisant d'un état bien évident, je lui dis sur un ton qui avait la douceur du sien, « Viens avec moi, j'ai soif de l'infini ce soir. » Et lui faisant face en ouvrant les bras, « As-tu quelque raison de refuser ? Vois-tu, poursuivis-je en baissant la tête, ma soif est si grande à l'instant. » Gentiment, l'abbé éclata d'un rire gai. J'avais l'air ennuyé, je protestais. « Tu m'as mal compris. » Je gémissais, jouant ma comédie avec outrance. « Tu ne me comprends pas. Je n'ai plus le pouvoir de me borner. Cette sensation est cruelle. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un homme de Dieu. » Je l'implorais. « Ne te refuse pas à mon impuissance. Tu le vois, la boisson m'aveugle. Mène-moi sur la tour où j'ai rendez-vous. » L'abbé répondit simplement. « Je t'accompagnerai. » Mais il ajouta. « J'ai moi-même rendez-vous sur la tour. » J'eus l'air déconcerté. Je levai la tête et balbutiai. « Avec qui ?»« La miséricorde infinie du Seigneur, » dit-il. L'église du village natal où nous séjournions est flanquée d'une haute tour rectangulaire. Il soufflait alors un vent violent. L'escalier de bois par lequel on monte est presque une échelle, et il me semble que le vent faisait vaciller la tour. Je m'arrêtais à mi-hauteur, tenant mal sur un barreau. J'imaginais les conséquences d'un glissement. Le monde dérobé dans un vide, le fond enfin ouvert, l'identité du cri et d'un silence définitif. L'abbé par en bas me tenait fermement la jambe. « Ne va pas, me dit-il, te tuer dans l'église. Tu le sais, je n'aime pas chanter l'office des morts. » Il tenta dans le bruit du vent d'enfler la voix, mais il n'en tira qu'en faussait les premiers mots du Dies Irae. C'était si pénible qu'à nouveau je sentis le cœur me manquer. Pourquoi l'avais-je été chercher ? Il était insipide et risible. Tout à coup, je le vis, d'où j'étais, suspendu, gisant sur un remblai de mâche fer quand laidissaient l'herbe et les fleurs des champs. J'étais suspendu sur le vide à l'échelle. Je vis, agonisant, l'abbé dans les mains de bourreaux sordides. La rage et la suffocation mêlées, une impudeur illimitée de cris, d'odeurs, d'excréments et de pus, La douleur décuplée dans l'attente des supplices qui mutilent. Mais au même moment, c'était ma rage, ma pitié pour l'abbé qui cognait. Je suffoquais moi-même, je frappais, et ma chute dans la tour faisait de l'espace vide un enfer de cris. Ivre, j'avais glissé dans les bras de l'abbé qui lui-même, mal assuré, me retint à grand-peine. « Nous avons failli tomber, » dit l'homme d'église. J'aurais pu l'entraîner dans ma chute, mais j'étais dans ses bras, si abandonné que je pouvais me croire heureux. Sa bêtise m'était secourable. Dans un monde d'abîmes, de glissements et d'horreurs voulues avec rage, il n'est rien que n'annule une simple pensée, celle de l'issue inévitable. D'être suspendu, justement, sur le vide, de n'avoir échappé à la mort qu'au hasard, j'éprouvais comme une gaieté, un sentiment d'impuissance. Je m'abandonnais sans réserve et mes membres pendaient sans vie. Mais c'était à la fin comme un coq chante. À ce moment, j'entendis crier du haut de la tour la voix grave d'Éponine à l'extrémité de l'échelle, articulée gaiement « Tu es mort ?»« Patience, nous montons !» repartit la voix de tête de l'abbé. Mon corps à l'aise pendait toujours, mais un léger rire l'agitait. « Maintenant, dis-je avec douceur, je reprendrai la marche. » Je demeurais toutefois inerte. Lentement, la nuit tombait et dehors, en longue rafale, le vent soufflait. L'impuissance d'un tel instant avait quelque chose d'ouvert et j'aurais voulu qu'il durât. Peu d'années auparavant, l'abbé C n'était comme moi qu'un des jeunes messieurs du village. Il avait la faveur d'Éponine, qui n'en avait rien fait qu'en rêve. De rage, elle jouissait d'imaginer des scandales où il serait, c'était doux mais honteux, si bien qu'elle en fut détraquée. Comme à mi-hauteur de la tour et dans la pénombre, je n'étais séparée qu'à la force des bras de C d'une horrible mort. La méchanceté de mon humeur envers lui m'étonna. Mais l'idée de la mort, peu contraire à l'état de glissement où j'étais, ne représentait pour moi rien de plus qu'une intimité pénible. J'avais tout d'abord à combler les vœux d'Éponine. Comme je l'étais moi-même, Éponine était ivre. Quand pour répondre à un cruel caprice, j'allais chercher l'abbé. Tout l'après-midi, nous avions bu et fait l'amour, et j'avais ri. Mais j'étais maintenant si faible qu'à penser au sommet de la tour, à ce qu'il voulait dire, j'éprouvais au lieu de désir, mieux comme un désir, un malaise. Maintenant, le visage du prêtre suait. Son regard cherchait le mien. C'était un regard lourd, étranger, animé d'une intention froide. Je pensais. Au contraire. J'aurais dû moi-même saisir le corps inanimé de l'abbé dans mes bras, le porter au sommet et dans la liberté du vent, comme à une déesse mauvaise, l'offrir à l'humeur détraquée d'Éponine. Mais ma méchanceté était sans force. Comme en rêve, elle se dérobait. Je n'étais que douceur lâche, hilaire et vaguement promise à l'oubli. J'entendis, je voyais en haut de l'échelle la tête penchée d'Éponine, des cris de vulgaire impatience. Je vis le regard de l'abbé se charger de haine, se fermer. Les injures d'Éponine lui ouvraient les yeux. Il devinait maintenant le piège où l'amitié l'avait fait tomber. « Que veut dire cette comédie ?» me demande-t-il. Il y avait dans le ton de sa voix plus de lassitude que d'hostilité. Je répondis avec une maladresse voulue. « Tu as peur d'aller là-haut ? » Il rit, mais il était fâché. « Tu vas fort, tu es si noir que tu tombes, et c'est moi qui n'ai pas le courage de monter. » Et c'est moi qui n'ai pas le courage de monter. Pardon. Tu vas fort, tu es si noir que tu tombes. Et c'est moi qui n'ai pas le courage de monter. Je lui dis, très amusé, sur le ton du chatouillement. Tu as un petit filet de voix. Je réagissais passivement, mais en un sens, l'apathie me laissait libre, comme si je n'allais plus me retenir de rire. Je criais de toutes mes forces. Éponine ! Je l'entendis crier, hurler. Crétin ! Et d'autres noms plus malséants. Puis j'arrive. Elle était hors d'elle de rage. « Mais non, lui répondis-je, nous allons monter. » Je restais néanmoins inerte. L'abbé me maintenait péniblement à l'aide d'un genou et d'un bras serré contre l'échelle. Je ne puis m'en souvenir aujourd'hui sans vertige, mais alors un sentiment vague de bien-être et d'hilarité m'abusait. Éponine descendit et elle dit durement à l'abbé quand elle l'approcha. « Maintenant assez, descendons. »« Impossible, dit C. » Je puis le maintenir sans peine, mais je ne pourrais pas le porter et descendre l'échelle. Éponine ne répondit rien, mais je la vis soudainement cramponnée au barreau. « Appelez ! » cria-t-elle. « La tête me tourne !» L'abbé répondit d'une voix faible. « Voilà tout ce qui reste à faire. » À ce moment, je compris que nous allions descendre. C'était fini. Nous n'irions jamais en haut. Je me tendis dans mon inertie. Et comme une paralysie n'immobilise vraiment que dans l'effort rageur, il me sembla que le suicide aurait seul le pouvoir de répondre à mon irritation. Seule une mort volontaire serait un châtiment assez rigoureux de mon échec. Nous étions tous trois contractés sur l'échelle, et le silence était d'autant plus agaçant que j'attendais l'appel de l'abbé. de sa voix de fausset qui se briserait dans l'obscurité, qu'il tenterait d'attirer l'attention. Ce serait risible, intolérable, et dès lors, de façon définitive, par ma faute, tout se refermerait. Je me débattis à ce moment-là, mollement, mais je voulais me jeter dans le vide où j'aurais aimé l'entraîner. Je ne pus lui échapper qu'en montant. Il devait tenir fermement les barreaux et ne put m'empêcher d'aller plus haut. Éponine, effrayée, gémit. « Tenez-le, il va se tuer !»« Je ne peux pas, » dit l'abbé. Il pensa qu'attrapant ma jambe, il aurait précipité ma chute. Il ne pouvait que me suivre pour m'aider. Je dis alors d'un ton net à Éponine, « Laisse-moi monter, je vais en haut de la tour. » Elle se serra sur le côté et je montai lentement jusqu'au sommet, suivi de l'abbé et d'Éponine. J'accédai à l'air libre. Étourdi par le vent, une large lueur claire au couchant était barrée de nuages noirs, le ciel était déjà sombre, l'abbé C, devant moi, la mine décomposée et décoiffée, me parlait, mais je n'entendais dans le bruit du vent que des mots inintelligibles. Je vis derrière lui sourire Éponine. Elle avait l'air ravie, elle était dépassée. D'avoir reconnu sur l'échelle Éponine, qui était la honte du pays, qui jamais ne manquait de le provoquer au passage à l'amour, si elle l'apercevait dans les rues, elle riait, et comme on siffle gaiement un chien, elle claquait la langue et appelait « Puceau !» L'abbé C avait eu un mouvement de recul, mais il ne pouvait à ce moment-là s'en aller, et lorsqu'il arriva sur la tour, il voulut relever un défi qui allait si loin. Il eut toutefois un instant d'hésitation. Dans cette situation insensée, la douceur angélique, le sourire éclairé de l'intelligence, ne pouvait l'aider. Il devait recourir, reprenant le souffle, à l'exceptionnelle fermeté des nerfs, à une volonté dominante de clarté spirituelle. Nous avions, Éponine et moi, devant lui, la puissance vague, grimaçante, en même temps angoissée et moqueuse de la nuit. Nous le savions dans notre désarroi. Nous étions des monstres. Il n'y avait pas en nous de pudeur, de limite opposée aux passions. Nous avions sous ce ciel de suie la noirceur de démons. Qu'il était doux, en quelque sorte rassurant, devant la tension intérieure coléreuse de l'abbé, d'éprouver comme une liberté un glissement vertigineux. Nous étions, Éponine et moi, hébétés, violemment ivres. Plus sûrement, du fait de ma défaillance sur l'échelle, l'abbé s'était pris au piège que nous avions tendu. Rageur et essoufflé, sur une plateforme exiguë, enfermée en un sens dans le libre espace des cieux, nous étions dressés l'un vers l'autre comme des chiens qu'un soudain enchantement aurait figés. L'hostilité qui nous unissait était immobile, glacée. Elle était comme une contraction de rire absurde au moment du plaisir égaré. À ce moment, j'imagine que le temps d'un éclair, l'abbé lui-même le sentit. Quand la tête ahurie de Madame Anus se prononça... Madame Anus ! D'où elle sort, celle-là ? Madame Anus, excellent. Excellent. Deuxième, Señora Anus. Quand la tête ahurie de Madame Anus se montra à la porte de l'échelle, un hideux sourire furtivement défigura des traits exagérément tendus. « Éponine à la garce !» cria Madame Anus. Sa voix de harangère, qu'une saveur paysanne achevait de rendre mauvaise, dominait le bruit du vent. La vieille sortit, un instant le vent l'embarrassa. Elle se tint droite, retenant sa pèlerine à grand-peine. Son aspect avait l'austérité en grisaille d'un passé de sacristie froide, mais elle était mal embouchée. Elle fonça sur sa fille, c'était une furie qui criait « La salope, elle s'est saoulée et elle s'est mise à un poil sous son manteau !» Éponine recula vers la balustrade, apparemment médusée par sa mère, qui allait dévoiler son ignominie. Elle avait l'air en effet d'une salope, sournoise, et déjà en dessous, elle riait de peur. Mais plus vif et plus décidé encore que la vieille, l'ABC se précipita. Sa voix, l'ABC c'est excellent, et c'est excellent d'avoir que c'est ABC, l'ABC, AB, c'est un mon crâne, comment ça s'appelle, AB ou l'AB? Sa voix mince, portée par le mouvement intime de la honte, ne se brisa plus. Elle éclata au commandement. « Madame Anus, proféra-t-elle, où vous croyez-vous ? » La vieille était grande et elle s'arrêta d'étonnement, regardant le jeune abbé. « Vous êtes, reprit la voix, dans l'enceinte d'un sanctuaire. » La vieille hésita, désemparée. Éponine, un peu déçue, souriait péniblement. Il y avait dans l'hébétude et la niaiserie affectée d'Éponine une sorte d'incertitude. Ivre et muette, elle était au sommet du sanctuaire, toute docilité et néanmoins la menace même. Apparemment, ses mains serrées sur son manteau le tenaient résolument fermé, mais elle pouvait n'être là que pour l'ouvrir. Ainsi était-elle à la fois habillée et nue, pudique et impudente. Se neutralisant soudain, les mouvements emportés de la vieille et du prêtre n'avaient pu que la rendre à cette immobilité indécise. La colère et l'effroi n'avaient eu pour fin, semblait-il, que cette attitude paralysée qui faisait à l'instant de la nudité d'Éponine l'objet d'une attente anxieuse. Dans ce calme tendu, à travers les vapeurs de mon ivresse, il me semblait que le vent tombait. Un long silence émanait du ciel. L'abbé s'agenouilla doucement. Il fit signe à Madame Anus, et elle s'agenouilla près de lui. Il baissa la tête, étendit les bras en croix, et Madame Anus le vit. Elle baissa la tête et n'étendit pas les bras. Peu après, il chanta sur un mode atterré, lentement, comme à une mort. « Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam. » Ce gémissement d'une mélodie voluptueuse était si louche. Il avouait si bizarrement l'angoisse devant les délices de la nudité. L'abbé devait nous vaincre en se niant, et l'attitude même par laquelle il voulait s'effacer l'affirmait davantage. La beauté de son chant, dans le silence du ciel, l'enfermait dans la solitude d'une délectation dévote. Cette beauté extraordinaire à la nuit n'était plus qu'un hommage au vice, innommable objet de cette comédie. Impassible, il continua. Et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele inquietatem meam. Madame Anus leva la tête. Immobile, il maintenait les bras tant étendus, son aigre voix ponctuant la mélodie avec une admirable méthode. Surtout miserationum parut n'en plus finir. Et Bobby, Madame Anus, furtivement, fit la moue et baissa de nouveau la tête. Éponine, tout d'abord, ignora la singulière attitude de l'abbé. Les deux mains à l'ouverture du manteau, la chevelure soufflée, la lèvre ouverte, elle était si belle et si crapuleuse que j'aurais voulu dans l'ivresse répondre au chant lamenté de l'abbé par quelque si joyeuse. Éponine évoquait l'accordéon, mais la misère d'une musette, d'un music-hall où elle chantait mêlée à des mannequins nus, me semblait dérisoire à la mesure d'un triomphe si certain. Une église entière aurait dû tonner d'un bruit d'orgue et des cris aigus d'un cœur si la gloire qui l'environnait était dignement célébrée. Je me moquais bien de la chanson où j'avais aimé l'entendre, qui était sur un air idiot. Elle a un caractère en or, Éléonore. J'imaginais la clameur d'un Te Deum. Un jour, un sourire de malice ravi achève un mouvement qui avait la brusquerie de la mort, en est l'aboutissement et le signe. J'étais soulevée de cette façon, dans ma douceur, par une acclamation heureuse, infinie, mais déjà voisine de l'oubli. Au moment où elle vit l'abbé, sortant visiblement du rêve où elle demeurait étourdie, Éponine se mit à rire, et si vite que le rire la bouscula. Elle se retourna, et penchée sur la balustrade, apparut comme une enfant secouée d'un grand rire. Elle riait, la tête dans les mains, et l'abbé, qu'un gloussement mal contenu avait interrompu, ne leva la tête, les bras hauts, que devant un derrière nu. Le vent avait soulevé le manteau, qu'au moment où le rire l'excéda, elle n'avait pu maintenir fermé. L'abbé m'avoua plus tard, rougissant, je l'interrogeai en manière de plaisanterie, et par honnêteté, il se tut, qu'il avait bandé. Oui, probablement, tout une érection. Éponine avait si promptement refermé son manteau que Madame Anus, qui se redressa plus lentement, ne comprit jamais ce que voulait dire ce visage écarquillé. L'abbé, les bras au ciel, avait la bouche ouverte et suffoquait. Maintenant qu'il est mort, en Allemagne, où les bourreaux lui crevèrent les yeux, qu'Éponine est morte, violée et torturée par des miliciens, mais sans mot dire, dans le paysage enneigé, la tour de l'église a l'air néfaste d'un arbre mort. J'ai survécu, mais comme un corbeau hante la solitude de l'hiver et ma voix montre assez que je vis des souvenirs d'un temps lointain.
Wow, esto debe de ser escrito entonces después de la Segunda Guerra Mundial, porque evoca la tortura, los milicianos. A ver, ver dónde está puesto. Qué fuerte esta novela. Se acaba mucho más política que empezó. Empezó como un cuento más bien sariano de sobre cómo enrollar un cura a follar con una chica del barrio que folla mucho. Probablemente a la época debe ser una prostituta, no sé. Bueno, sí, dice que estaba en los musicals, pero qué raro cómo se acaba. Qué fuerte. Bueno, pues no me encuentro, a ver dónde estaría. Bueno, os pongo una musiquita buena de la gran Amalia de nuevo y mientras que busco esta fecha, ¿vale? Después de primavera, después de verde pino, verde mastro, os pongo Medo.
Caindo uma noite comigo, quem dorme à noite comigo é meu segredo, é meu segredo. Mas se insistir, eu lhes digo. Mas se insistir, eu lhes digo. O medo mora comigo. Só o medo. E cedo porque me embala. E cedo porque me embala. Não vai bem de solidão. É com silêncio que fala. É com silêncio que fala. Que está lá e nos perturba a razão, e nos perturba a razão. Gritar, quem pode salvar? Gritar, quem pode salvar-me do que está? Esperar-me ao pé da ponte do fim, ao pé da ponte do fim.
Pues no lo encontré. No lo encontré, pero dice cosas interesantes sobre la naturaleza emocional de la lengua de Bataille en el prefacio de Michel Camus, que es el editor de este pequeño libro aparecido en Mercure de France en París. Y pero no dicen de cuánto es. Qué pesado. No entiendo esta, bueno, quizás no lo saben porque era póstumo, pero igual podrían hacer unas recercas y búsquedas y diciéndolo. En fin. Bueno, pues se acabó la sexofonía de hoy. Espero que estáis prendidos y puestos para pasar una noche bellísima, una noche de la vida riquísima, a follar como nunca, con o sin familia. Y Después, Nochevieja. Estaré fuera de Barcelona hasta el 31, pero os recuerdo que, bueno, la semana pasada hubo la primera sesión de Film Olímpica y que ha sido buenísima con cortos eróticos y un último corto largo de 20 minutos de Erika Lust, de porno hecho entonces por una mujer, Erika Lust, que había entrevistado para Sexofonía, ¿os recordáis? Y entonces estuvo muy bien. El porno pareció largo a la gente y que se fueron justo después porque eran un poco aburridos al final de tanta repetición de monótona de penetración, cuando justamente se trata de ir un poco más allá de eso. Y justo antes había un documental de Afroditas de Zeltia Utereino que trataba justamente del que había que pasar un poco sobre ir más allá de la penetración y pensar más en el sexo de la mujer en vez de la repetición de la, del coito a la manera masculina. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Os me despido y espero que folláis mucho con ustedes, solos o con gente, lo cualquiera. Y me podéis seguir o reescuchar este programa el miércoles a las 3 y también por el blog, lo cuelgo cada vez, es sexofonia.contrabanda.org. Nos vemos pronto, un beso.